Vendredi 11 mai 2012, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Toujours un plaisir évidemment de vous retrouver pour parler bande dessinée. Et cette semaine, tout particulièrement pour parler fanzine. Ce sera notre sujet de prédilection à l'aube de la 7e édition du Salon Nouveau Genre qui aura lieu ce samedi et ce dimanche du côté de l'église Saint-Jean-Baptiste ici à Québec sur la rue Saint-Jean. Et c'est un peu une tradition qu'on se fait à chaque Salon Nouveau Genre, mais d'explorer un peu différents regards, différents visages, différentes perspectives autour justement du fanzine et de l'auto-édition au sens large. Et les deux propositions qu'on vous fait aujourd'hui, eh bien ce sera notamment le projet M et I pour les petits avec Ilana Pinchon. On parle donc d'illustration jeunesse, jeu de créatures autour de l'alphabet. Il y aura également le projet Claudia fait du charme qu'on vous présentera en compagnie de Claudia Tremblay. Ce sera dans quelques instants. Également de passage côté chronique et là, on retourne dans la sphère de la bande dessinée. Il y aura Thomas-Louis Côté, notamment en fin d'émission, qui sera avec nous pour nous partager ses regards et ses perspectives sur la BD. Et évidemment, on en profitera aussi, puisqu'il sera de passage en studio, pour faire un petit retour sur l'expérience du Festival de la bande dessinée de Québec, 25e édition, qui s'est terminée il y a déjà quelques semaines. Et sinon, tout à l'heure, il y aura Stéphane Gravel qui sera avec nous pour nous partager ses commentaires BD. Et on reste dans la BD rétro en ce qui concerne ses suggestions. Alors c'est le menu pour ce vendredi et comme à l'habitude une petite suggestion musicale qui nous accompagne au cours de l'émission. Cette semaine c'est la formation Six Hands tirée de leur tout dernier EP. On en écoute un premier extrait. Et voilà, toujours à l'écoute donc de La Vie en BD et on se lance maintenant à la découverte donc de fanzines, d'autopublications à l'occasion, comme on le disait en introduction du Salon de Nouveau Genre 7 et avec nous autour du projet Claudia fait du charme. Claudia Tremblay, bonjour.
Bonjour Raymond.
Alors en fait, projet, comment on le décrirait, comment on le présenterait peut-être? Je te laisserais peut-être le bénéfice de nous l'introduire.
Oui, en fait, j'ai commencé en 2010 à faire des fanzines qui s'intitule Claudia fait du charme. C'est le nom de ma petite maison d'édition. C'est parti d'un hasard, un livre que j'ai trouvé, qu'on m'a offert en fait, qui s'appelait Claudia fait du charme. C'est un livre traduit de l'allemand, un petit livre pour adolescentes. Puis sur la couverture, il y avait une fille du nom de Claudia qui me ressemblait vraiment beaucoup. Donc, j'ai décidé d'en faire comme ma caricature, puis de partir un peu mes propres livres avec ça.
Et le fanzine, au niveau visuel notamment, c'est un beau terreau pour l'expérimentation, pour l'exploration, autant au niveau thématique qu'au niveau visuel.
Oui. En fait, je me suis servi un peu de l'autofiction, puis des hasards et tout ça, pour en faire des livres, des petites histoires, des recueils, des dessins, soit seul ou avec d'autres personnes.
Et de manière générale, en fait, tu le disais, les thématiques sont quand même assez vastes. On va autant des trucs liés aux rencontres, les souvenirs, les déplacements, le hasard. Donc, c'est essentiellement ce qui t'inspire, c'est ce que tu vis, c'est les réflexions que t'as, c'est...
Oui, mais c'est amené de façon très humoristique et très kitsch, avec de l'ironie. Il y a beaucoup de dessins, des collages, beaucoup de couleurs. C'est assez joyeux.
Et justement, côté style graphique, qu'est-ce qui t'amène justement à avoir envie d'intégrer ces couleurs qui sont globalement assez vives aussi et très, très vivantes? C'est, comme tu dis, c'est joyeux tout ça, ce qui en sort là.
Oui, autant du niveau des couleurs que des images que j'utilise pour faire les dessins. Je réutilise beaucoup de photos de vieux magazines des années 70, 80, des magazines de mode, de tricot, de choses qui m'inspirent. Puis j'amalgame ça avec mes photos personnelles, des textes que je glane un peu partout, puis ça donne des espèces de petits récits drôles.
Et tout ça développé de manière instinctive, un peu justement parler d'expérimentation tout à l'heure?
Oui, c'est un peu l'endroit où ce que je vais expérimenter avant de faire des expositions ou d'aller plus loin en art.
Oui, parce qu'en fait, ça va être le cas aussi au travers des fanzines qu'on va explorer aujourd'hui. Il y a un pont entre ce que tu fais, le travail que tu proposes côté fanzine, et le travail que tu fais en ce qui concerne la sphère des arts visuels aussi, puisque tu explores un peu dans les deux camps, entre guillemets.
Oui, dans les deux cas, ce qui relie les deux, c'est beaucoup le côté narratif que peut avoir un livre. C'est ce qui m'a intéressé un peu dans les arts visuels. J'utilisais des images, des textes, puis là est née l'idée d'utiliser les livres comme support pour mes œuvres.
Effectivement, d'avoir un élément cohérent, fait une œuvre qui se suit narrative, ou que ce soit dans l'ambiance, que ce soit dans le propos, que ce soit dans le récit au bout du compte.
Oui.
Et côté dessin aussi, de manière générale, on parlait des couleurs. Cela dit, il y a aussi des explorations en noir et blanc avec beaucoup de jeux avec la ligne, un côté très psychédélique aussi dans certaines illustrations.
Oui, effectivement, il y a un gros côté psychédélique parce que je sais pas, je trouve que ça peut amener... ça m'amène vraiment à basculer dans l'étrange, puis dans des sphères un peu inexpliquées.
Donc, un plaisir de sortir un peu, de pas représenter le réel, dans le fond, mais d'offrir une interprétation, entre guillemets, du réel.
Oui, puis de l'étrangeté qui se trouve un peu partout.
Exemple?
Ben, en fait, j'ai réalisé un petit livre à Halifax, il est en anglais, Celestial Things Have Fun. C'est juste les choses célestes ont du fun. Puis il y a comme toutes les créatures qui peuvent se retrouver dans le ciel ou dans l'espace, que ce soit des déesses, des extraterrestres, puis tout ça. Puis j'en ai fait comme une espèce de petite histoire.
Et sur ton blog, d'ailleurs, il y a un montage aussi d'arc-en-ciel sur fond noir ou des choses comme ça aussi, un jeu de répétition.
Oui, le motif est vraiment très important, que ce soit dans mes dessins, dans mes collages, parce que j'ai aussi étudié à l'École des métiers d'art en construction textile et design textile. Ça m'a vraiment beaucoup inspiré de faire cette recherche-là dans le design textile, puis les motifs, puis tout ça.
Effectivement, ça amène un élément texturé, j'ai l'impression, aussi quand on joue avec les motifs. Il y en a certains, parce qu'on parle de collage aussi, donc où on exploite justement ce motif-là, puis la différence entre un matériel puis un autre matériel aussi, et l'effet que ça va créer.
Oui, ça m'arrive des fois de scanner des tissus pour retrouver vraiment la trame là, qu'on voit dans un tissu quand on regarde de près. Là. Quand on le scanne, on retrouve vraiment l'espèce de petit quadrille que dans le tissu. Tous ces petits détails-là, moi, je trouve ça important, puis c'est ce qui donne la texture puis la particularité à mes livres.
Et est-ce que ça devient une base d'inspiration, une base d'exploration aussi, ces éléments, ces textures-là?
Oui, ça me permet souvent de faire des fonds. Donc, mes personnages vont graviter parfois sur des fonds de tissu. Ça donne... parce que on dirait que j'aime pas ça faire des perspectives ou des paysages, des choses comme ça. Donc, ils vivent dans ces espaces-là qui sont les motifs de tissu ou des motifs que j'invente, géométriques ou florales.
Oui, puis on revient à l'étrangeté dont tu parlais tout à l'heure, dans le fond. Parce qu'il y a un sentiment d'étrangeté, il y a quelque chose de joyeux qui ressort de ça, mais il y a toujours un petit sentiment d'étrangeté où on sent que c'est pas un univers standard dans lequel on retrouve tes personnages, tes dessins.
C'est joyeux, mais on bascule vers quelque chose de tranquillement inquiétant. Mm-hmm. C'est ça, il y a beaucoup... c'est très ludique, c'est joyeux, c'est plein de fleurs, c'est très féminin aussi, je dois le dire. C'est très candide, mais finalement, il y a comme quelque chose qui s'installe, une espèce de côté un peu plus sombre ou inquiétant, puis on se demande où est-ce que ça s'en va, qu'est-ce qui est arrivé à ces personnages-là qu'on se sente dans cette ambiance-là bizarre.
Donc un plaisir un peu de désarçonner l'observateur, désarçonner le lecteur, pour qu'il y ait aussi peut-être à recomposer dans sa tête, à compléter l'histoire, la narration que tu lui proposes.
Oui, je donne pas toute l'information. C'est pour ça, en fait, que ça différencie d'une bande dessinée ou d'un illustrateur à quelqu'un qui est en art visuel. Souvent, on va pas donner de toutes les informations. Faut que la personne qui va regarder les livres cherche un petit peu, là, puis se fasse sa propre idée.
Et en même temps, j'ai l'impression, souvent, quand on explore le fanzine aussi, c'est justement pour être désarçonné. Du moins, moi, en tant que lecteur, j'aime ça être surpris, être étonné, et donc, en ce sens-là, ben, ça rejoint un certain pan, justement, d'un certain lectorat, des gens qui ont envie de faire avec toi ces explorations-là.
Oui, ça devient vraiment des petits univers. Puis, en fait, c'est le fun, ça démocratise aussi l'art. Tu sais, tu peux acheter une œuvre d'art assez chère, des dessins, des peintures et tout ça. Mais un petit livre comme ça, photocopié en couleur ou en noir et blanc, c'est accessible pour tout le monde. Mm-hmm. Puis les gens, ils peuvent s'approprier une petite œuvre d'art puis la regarder quand ils veulent. Puis c'est ça que j'aime partager avec les gens.
Et tu fais des séries d'à peu près combien habituellement? Exemple pour, je pense son dernier, c'est mon fanzine d'amour, où il y en a eu...
Oui, mon fanzine d'amour, en fait, je le lance demain au Salon Nouveau Genre. Puis la page couverture est sérigraphiée à la main, donc j'en ai pas fait un grand tirage. Celui-là, j'ai seulement fait 35 copies. Habituellement, ça tourne autour de 50.
Donc, quand on parle d'œuvre unique, je pense qu'à 50, on reste dans comme tu dis, j'aime bien l'expression, s'acheter une œuvre d'art à prix réduit, au bout du compte. Là.
Oui, vraiment.
Et mon fanzine d'amour, la thématique, ça va être l'amour, justement, ou c'est...
Oui, l'amour, puis dans sous toutes ses formes. Il y a des artistes qui ont participé avec moi, qui m'ont envoyé des dessins pour que je puisse construire ce livre-là.
Et de quelle manière, en fait, ça s'est passé? Est-ce que tu leur as donné des pistes ou est-ce que tu leur as lancé en général pour toi aussi être surprise puis être désarçonnée par ce qui allait te proposer?
Oui, je me souviens plus des mots exactement, mais pour les inspirer, j'avais pigé des mots qui ont rien à voir avec l'amour pour que ça garde le côté étrange que j'aime. Mm-hmm. Pour qu'ils se questionnent un peu plus puis pas juste avoir des couples qui s'embrassent ou des trucs comme ça. Donc, ça a donné quelque chose d'assez intéressant.
Et quel genre de piste, quel genre de mots là, pour nous donner peut-être une petite idée en attendant de pouvoir aller le voir au Salon Nouveau Genre?
Ben, beaucoup de mots qui tournaient autour de l'étrangeté, de la folie, de la peur, ou même des mots comme camion, tu sais, des choses comme ça, des choses qui pour casser justement le côté amour de mon livre sur l'amour.
Oui, que ça soit pas quétaine, entre guillemets.
Ouais, ben c'est quétaine, mais c'est...
Mais du bon quétaine, du kitsch.
Ouais, c'est ça, c'est drôle. J'utilise le quétaine parce que moi, je trouve que c'est important, l'humour en art.
Oui, puis en même temps, j'ai l'impression que ça cadre aussi, parce que dans ton type de trait, il y a un côté, dans tes couleurs, aussi dans certaines des illustrations que j'ai pu voir, il y a un petit côté rétro qui en ressort aussi, j'ai l'impression.
Ben oui, et ça, c'est parce que je travaille dans une friperie. Mes inspirations sont vraiment autour de moi, dans ma vie quotidienne, puis je travaille dans un endroit où on vend des vêtements, toutes sortes d'accessoires vintage, donc ça m'inspire beaucoup,
oui. Oui, puis en même temps, il y a une richesse dans ces motifs-là aussi qui sont ancrés, et ces couleurs-là qui sont ancrées dans une certaine époque, mais on dirait qu'on les redécouvre, ces textures-là, ces motifs-là aujourd'hui.
C'est vraiment ce que j'essaie de faire, en fait, d'aller rechercher le plus loin qu'on n'a pas encore vu, mais qui n'est pas trop loin encore. C'est ça, le kitsch, c'est juste avant qu'on oublie complètement, on le ressort, puis c'est là que ça devient bon, c'est là que ça devient intéressant. C'est Kundera qui disait ça.
Et donc, pour le salon Nouveau Genre 7, donc nouveau fanzine de lancer, mon fanzine d'amour, est-ce que tu auras avec toi aussi d'autres fanzines passées ou ça sera vraiment axé sur celui-là? Est-ce que tu auras d'autres productions aussi?
Je vais avoir des cartes de souhait cette fois-ci, pour la première fois. Puis, je vais avoir toute ma collection de Claudia fait du charme. Et je suis rendue à 4 publications.
Et donc, en fait, il y aura notamment celui dont tu as mentionné, réalisé à Halifax. Une résidence de fanzine, d'ailleurs, que tu as fait en août 2011, je pense.
Oui, c'est ça.
Quand j'ai vu ça, j'avais un point d'interrogation, résidence de fanzine. Je me suis dit, faut que je lui demande, qu'est-ce que c'est?
C'est vraiment un endroit qui s'appelle le Robert Street Social Center. C'est dans une petite maison à Halifax. Il y a une bibliothèque qui contient environ 3000 fanzines. Puis, tout l'été, pendant 4 mois, il y a des artistes qui font des livres, qui se chevauchent, deux semaines, c'est un artiste, après 2 semaines, c'est un autre, et tout ça, qui vont habiter dans une petite cabane en arrière du centre, puis qui va résider là pendant 2 semaines, puis qui va créer un livre.
Donc, c'est vraiment un mode de création intensif, en étant un peu désarçonné aussi dans ce contexte-là.
Oui, on a accès au centre, puis nous, on dort dans une petite cabane avec un genre de petit lit d'enfant.
On peut voir d'ailleurs aussi ces éléments-là, d'autres éléments, quelques exemples d'illustrations sur ton blog, claudiafaitducharme.blogspot.ca.
Oui, c'est ça. .com.
.com. Et donc, évidemment, les 12 et 13 mai à l'église Saint-Jean-Baptiste pour le Salon Nouveau Genre 7. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres endroits aussi pour trouver tes publications?
Oui, vous pouvez présentement les trouver à la librairie Philactère aussi.
Alors ben voilà, on lance l'invitation à aller découvrir tout ça. Claudia Tremblay, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Raymond.
Et au plaisir.
Oui, bonne journée.
Voilà notre extrait donc de la formation Six Hands tiré de leur EP. Alors on vient d'écouter une pièce qui s'appelle, un extrait d'une pièce qui s'appelle Sense of Urgency. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL et malheureusement en fait Stéphane Gravel ne nous rejoindra pas. C'est un rendez-vous pour une autre semaine. On va porter un petit regard sur les prix Joe Chaster, les Joe Chaster Awards qui ont été rendus publics, du moins liste des finalistes qui ont été rendus publics un peu plus tôt cette semaine. En fait, c'est la 8e édition de ces prix annuels qui sont destinés aux auteurs canadiens de bande dessinée. On a beaucoup parlé avec les BDistes, Causa, avec les BDlistes de prix accordés aux auteurs québécois. Donc, cette fois-ci, on élargit tout ça. C'est les auteurs canadiens qui sont récompensés. Les auteurs canadiens de bande dessinée, mais aussi ceux qui font la BD sous forme de comics. Il y en a quand même beaucoup également. Et donc, côté catégorie, on y va vraiment de manière très, très large. Donc, ce qui fait que c'est pour les citoyens canadiens, donc qu'ils habitent ou non au Canada, l'important c'est de détenir la citoyenneté canadienne. Et les prix Joe Shuster, vous avez peut-être fait le pont, d'ailleurs en fait c'est nommé en l'honneur de Joe Shuster qui est le créateur en fait du légendaire Superman, un super-héros qu'il avait créé en compagnie du scénariste Jerry Siegel. Alors voilà pour la petite anecdote, et évidemment on reste quand même un peu chauvin, on n'a pas vraiment le choix, et donc on se demande toujours de prime abord, est-ce que le Québec fait belle figure sur cette liste de finalistes? La réponse est de manière générale oui, beaucoup d'auteurs québécois qui s'y retrouvent. Alors, petit survol rapide, tiens, de certaines des catégories, notamment scénariste BD exceptionnel. On retrouve, dessinateur de BD exceptionnel, tiens, commençons par celui-là. On retrouve, entre autres, côté Québec, Delaf, Marc Delafontaine pour Les Nombris et Tome 5. Il y a également Fred Jourdain qui se retrouve pour Le Dragon Bleu, édité chez Alto. Il y a aussi, si on reste au Québec, Yannick Paquette qui est nominé pour Swamp Thing et Batman Incorporated, entre autres. Yannick Paquette qui donne évidemment du côté comics qui lui est basé à Montréal. Sinon, catégorie auteur de BD exceptionnel, on retrouve, si on reste dans les Québécois, là, Guy Delisle pour ses chroniques de Jérusalem, ce qui est un peu incontournable considérant entre autres qu'il a gagné le Fauve d'or à Angoulême, il a gagné également le BDIS, l'un des BDIS il y a quelques temps. Alors Guy Delisle s'y trouve, il y a également François Lapierre pour Chroniques sauvages qui avait fait un peu plus tôt l'année dernière. Évidemment, on reste dans les livres de 2011. Très, très beau volume, d'ailleurs, au niveau dessin, notamment. Donc, et scénario aussi, ça se défend très bien. Michel Rabagliati, qui est nominé également dans cette catégorie-là pour Paul au Parc. Et également, si on ouvre vers d'autres créateurs... Il y a aussi des gens du côté de la littérature anglophone dont on vous avait parlé, notamment Chester Brown qui est en nomination pour Paying for It. Et si vous vous rappelez notre édition coup de cœur de janvier dernier, eh ben c'était l'un des choix de notre collaborateur Sam Murdoch qui disait, regardez, c'est une des bonnes BD anglophones là, que j'ai lues l'année dernière. Je l'ai lu d'ailleurs pour ma part par la suite et effectivement ça se lit très bien et ça suscite aussi de beaux débats évidemment pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute à ce moment-là. On vous remet en contexte, c'est une bande dessinée où le dessinateur et le créateur, l'auteur, Chester Brown, raconte qu'il a décidé de commencer à utiliser les services de prostituées. Donc, il justifie sa position à différents points de vue. On le voit dans ses expériences sur plusieurs mois où il, justement, fait affaire avec elle. Alors, assez intéressant, il y a aussi un texte qui est joint à ça pour poursuivre un peu la réflexion, mais de manière non BD-esque. Alors, je te dis un coup d'œil, c'est chez Drawn and Quarterly. Sinon, catégorie intéressante, dessinateur de couverture de bande dessinée. Encore là, donc, le Québec qui est représenté cette fois-ci par Fred Jourdain pour Le Dragon Bleu, par François Lapierre également pour Chronique Sauvage, Yannick Paquette qui se retrouve également, donc toujours pour les mêmes volumes. Vous avez aussi créateur de BD en ligne exceptionnel, donc ça, c'est destiné au BD web. Alors, il y a notamment, si on reste toujours au Québec, Iris et Sviane, qui sont en nomination pour leur blog, Le Stitcha, qui lui a été édité par la suite chez Delcourt. Sinon, d'ailleurs, je vous les mentionne au passage, surtout que c'est du matériel que vous pouvez facilement trouver sur le web. Alors, il y a Jade Hight Casey pour The Fox Sister, Emily Carroll pour Comics 2001, Tony Cliff pour Delilah Dirk, Kate Craig pour Heart of Ice, Drazen Kosjan pour The Happy Undertaker, et Ty Templeton pour Bonne Toons. Vous avez aussi pris du scénariste de bande dessinée exceptionnelle et cette fois-ci, il y en a une notamment dont on parlait la semaine dernière pour le tome 2, mais le tome 1 se retrouve nominé, donc Francis Desharnais pour Motel Galactique chez Pow Pow. Vous avez également Maryse Dubuc qui est nominée pour Les Nombris tome 5. Il y a Tristan Houleau qui se retrouve pour Le Testament du Capitaine Crown et Gobelin 5. Alors ça, c'est pour les Québécois qui sont représentés là. Bande dessinée jeunesse, vous avez notamment Paul Roux qui se retrouve pour Ariane et Nicolas tome 6, L'étoile mystérieuse. Alex A. pour l'agent Jean également, qui est nominé. Et vous avez aussi le prix Jean Day de l'auto-édition. Ça, il y a un Québécois, Jérémy Bourgeois-Raymond pour Jupe, qui est sorti un peu plus tôt en 2011. J'ai pas eu l'occasion de mettre la main dessus, mais en tout cas, si vous avez l'occasion, il est reconnu parmi les meilleures bandes dessinées auto-publiées au Canada. Et enfin, vous avez aussi le prix du libraire BD. Et ça, pour Québec, il y a L'Imaginaire qui se retrouve en nomination à Montréal. C'est le Studio 9 Comic Shop. Alors ben voilà, donc ça c'est les Québécois en nomination pour les Joe Shuster Awards. Également, ben si vous avez envie d'explorer l'ensemble de ces nominations-là, vous pouvez les voir soit ben sur Google en cherchant Joe Shuster Awards, sinon sur mon blog BD personnel, donc voir.ca-raymond-poirier, vous allez trouver la liste intégrale donc des nominés aux Joe Shuster Awards. We'll be right back. Petite mention passage également, on parle beaucoup du Festival de BD de Québec, mais il y en a un également qui va voir le jour à Montréal, première cette année, en fait, du 1er au 3 juin. Donc, si vous prévoyez faire un petit tour à Montréal à cette occasion, ben vous aurez la possibilité d'aller à la rencontre d'une cinquantaine d'auteurs, surtout des auteurs québécois d'ailleurs, de tout azimut, de Laf, Dubuc, Boom, Jimmy Beaulieu, Francis Dernais, Jean-Louis Tripp, Réal Godbout, Caton, Michel Rabagliati, François Lapierre, David Turgeon, et bien d'autres. On propose notamment, et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu inspiré du Festival de Québec, des matchs d'impro BD. Il y a également des projections de films, dessins en direct. Il reste donc Festival de BD à facture traditionnelle et donc qui aura lieu jusqu'au 3 juin à partir du 1er juin. Et pour toutes les informations d'ailleurs, fbddm-montréal.ca. Alors voilà pour cette petite annonce. On prend une courte pause et au retour, on jase avec Ilana Pinchon autour du projet M et I pour les petits, toujours dans le cadre de l'émission La vie en BD à CKRL.
Ce vendredi, en plus du gros lot évalué à 50 millions, l'Automax offre environ 10 chances additionnelles de gagner des lots de 1 million avec les Max Millions. Passionnés de vélo, découvrez la boutique Le Pédalier, le marchand de quartier aux services personnalisés. Depuis 25 ans, la boutique Le Pédalier répond autant aux exigences des pros que des amateurs. Les plus grandes marques, Kona, Felt, Marin, aux prix les plus avantageux. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux. C'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier, 99 boulevard Bastien, Wendake, via Robert Bourassa Nord. 418-842-2734, pédalier.ca.
Explosion imminent. Evacuate the facility immediately.
Les jeudis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Michel Drolet vous présente Mezzanine, les nouveautés du rock britannique actuel.
Today's security code is 5334118.
Mezzanine, seulement au 89.1.
La balade des gens heureux.
Écoutez ou réécoutez vos émissions favorites quand bon vous semble. CKRL est maintenant en balado-diffusion. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et cliquez sur la section Programmation. La balado-diffusion vous permet d'écouter directement sur notre site Internet ou de télécharger les contenus désirés. En auto, à pied, en vélo ou en canot, CKRL est dorénavant plus près de vous.
La balade des gens heureux.
Un peu partout à travers le monde, ces temps-ci, des voix sont en train de se lever, des voix qui réclament un monde plus juste, un monde plus égalitaire.
Ne les entends-tu pas, bruyantes comme le tonnerre, marcher au pas de loi, écraser les frontières.
Et devant cette attaque sans précédent-là, une résistance tout aussi historique est en train de se mettre en branle, précisément au moment où on se parle au Québec.
N'entends-tu pas le vent qui porte le bruit des portes?
Vous écoutez CKRL 89.1, Québec.
Elles sont là des millions qui n'attendent qu'à raisonner. Reste qu'à trouver les pieds qui voudront les chausser.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard.
26 ans de spectacle.
26 ans d'exposition.
26 ans à recycler.
26 ans de produits du Québec.
26 ans de bonne musique.
26 ans de party.
26 ans à s'impliquer dans le quartier.
26 ans d'entraide.
26 ans à changer le monde.
26 ans de Limoilou libre.
Souvent imité, mais le bal, c'est le bal. 1049 3e avenue Limoilou. Lebaldulézard.com.
Et vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. On vous invite d'ailleurs aussi à nous suivre sur Facebook, La Vie en BD-CKRL 89.1. Et on vous parlait tout à l'heure, en fait, du Salon Nouveau Genre qui s'en vient les 12 et 13 mai du côté de l'église Saint-Jean-Baptiste. On le disait d'entrée de jeu, ça nous donne une belle excuse pour aller farfouiller dans le fanzine, dans l'autopublication. Et notamment, on vous présente à l'instant le projet MII pour les petits qui est réalisé par Ilana Pichon et également Mathieu P. Lapierre. Ilana est avec nous, bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Oui, merci beaucoup.
Et donc, c'est un projet axé, en fait, sur l'illustration jeunesse qui est déclinée sur une multitude de supports.
Tout à fait. En fait, c'est parti de la naissance de ma nièce qui habite très loin de chez nous. En fait, elle habite en Suisse. Fait que mon lien avec elle, c'est de lui dessiner chaque semaine une petite carte postale et de la lui envoyer. Puis en fait, à partir de ça, ben j'ai décidé de fabriquer des cartes postales et finalement beaucoup de déclinaisons. Et puis Mathieu, qui est mon chum, lui, c'est comme l'inspiration, le verbomoteur qui va créer les noms, l'espace, l'univers d'une certaine façon. Puis ben moi, je transmets ça sur le papier.
Donc il donne un peu les contraintes au niveau du dessin.
Oui, mais en même temps, ben j'appellerais pas ça des contraintes. Je trouve que c'est comme de la stimulation, en fait. C'est ça qui est le fun, c'est que il y a un imaginaire qui est super, super créatif, super ouvert, puis ben ça vient me chercher d'une façon qui est déconcertante, mais super positive, parce que je suis quelqu'un qui est dans la vie quand même assez droit et rigoureux. J'ai étudié l'architecture, fait qu'il y a ce côté-là qui reste tout le temps dans mon format de trait de crayon, fait que lui me permet d'aller, de dépasser des fois, ou de mettre des couleurs, de laisser ça éclater un petit peu, fait que je trouve ça c'est un très très bel exercice, en fait.
Et il faut dire, en fait, que le projet, d'ailleurs, ce qui est disponible sous MII pour les petits, ça appelle aussi à certains éclatements. Je pense simplement, pour figurer un peu aux auditeurs, auditrices, en fait, il y a les lettres de l'alphabet qui sont illustrées avec des petites créatures de A jusqu'à Z. Faut les trouver, il faut les imaginer, ces bibites-là.
Oui, tout à fait. Puis en fait, ben, le but, c'était de pouvoir apprendre l'alphabet, parce que c'est ça, je pense qu'on a un lien avec l'imaginaire de l'enfance qui est très, très, très grand, mais c'est parce que ça laisse aussi beaucoup de place comparé à l'imaginaire des adultes qu'on imagine souvent beaucoup plus concis. Puis en fait, c'est ça, on a imaginé l'alphabet, mais on s'est dit que pour apprendre l'alphabet, ça pouvait être le fun d'avoir des mots qui venaient avec les lettres. Puis ben en fait, les petits personnages qu'on a, ou les bonhommes, ou les animaux, parce qu'on n'arrive pas à trouver un nom expressément pour les décrire, eh bien, eux, ils ont des caractéristiques qui commencent par leurs lettres. Donc en fait, c'est ça, on a des fois cherché pour certaines lettres avant pour trouver les mots et ensuite illustrer dans cette direction-là, mais j'avoue que l'imaginaire est vraiment farfelu en général.
Oui, parce qu'ils vont un peu partout, mais ils ont tout l'air aussi assez sympathiques de manière générale. S'ils existaient en vrai, je pense que ce serait le genre de truc qu'on prendrait, qu'on câlinerait.
Oui, puis... J'aimerais ça, à un moment donné, qu'il puisse exister en 3D, mais pour l'instant, j'ai pas cette extension-là.
Et justement, côté création, ça veut dire que tu pars un peu d'un mot, d'un qualificatif qui est en lien avec la lettre, soit avec l'impression, exemple, si on prend le T, l'impression que le T peut donner, ou un mot avec qui commence par T, ou...
Ben, j'ai souvent demandé à Mathieu qui me donne un nom, un prénom, en fait, pour l'animal ou le personnage, puis ben lui, il y a l'imaginaire qui est assez on va dire étrange pour trouver des noms, mais ils sont toujours très très moi c'est ça qui me stimule, parce que T, c'est Tripitoïch. Puis ben il est parti de là. Puis en même temps, mais après on s'imagine qu'il peut y avoir des qualificatifs, je me rappelle pas c'est quoi les adjectifs qui viennent avec le T, mais on peut s'amuser indéfiniment, là, parce que même en ayant l'alphabet en tant qu'enfant dans les mains, on peut s'amuser à trouver d'autres lettres, d'autres mots avec la lettre T ou avec la lettre S, ou se faire deviner mutuellement en se montrant le dessin à quoi il te fait penser si tu dois trouver un mot par la lettre T ou la lettre A. Fait que finalement, c'est quand même assez... je dirais ouvert dans la matière de la manière de l'utiliser, là. C'est ça qui est quand même le fun, là.
Exactement. Et côté création, c'est ce qui permet quand même une belle liberté, parce qu'en même temps, des 26 lettres, il y a plein de personnalités, il y a plein de couleurs aussi, il y a des dominantes qui vont ressortir pour une lettre, pour une autre aussi, des verts, des rouges, des couleurs plus grises. Oui,
donc c'est d'avoir de la couleur, hein. Puis même dernièrement, Mathieu disait, faudrait en faire un avec les accents, puis les points d'interrogation, puis toutes les comment on appelle ça, pas les fioritures, là, mais tout ce qu'on sert en plus des lettres à la base. Donc, on va réfléchir à ça.
Et donc, dans le fond, c'est quand même une approche assez organisée, mais avec l'objectif, et je reprends un peu les termes du site web, c'est dans le fond des subterfuges pour que l'on retombe en enfance, pour que toi, dans la création, tu retombes en enfance un peu, pour que nous, dans l'observation, on te suive un peu là-dedans.
Voilà, exactement. En fait, je trouve qu'on a... on a la chance de pouvoir, en tant qu'adulte, comme avoir finalement des enfants de temps en temps, ben, rendu à un certain âge. Puis c'est pas notre cas, mais c'est quelque chose. Ben j'ai beaucoup d'amis en fait qui ont des enfants, puis c'est un univers qui me fascine tout le temps quand je vois les enfants. Ils ont une espèce de naïveté puis de liberté qui est vraiment extraordinaire. Puis en fait, d'une certaine façon, je rentre dans ce monde-là effectivement quand moi je dessine, ou quand justement on monte des choses avec Mathieu, on a une espèce de c'est comme si on était, ben pas comme si on était à la garderie, mais on a le droit de bricoler, de dépasser, de colorier, puis de faire tout ce que ça nous tente de faire. Donc c'est, puis on est comme ça aussi dans la vie, mais il y a des fois dans le monde des grands où on a moins cette liberté-là.
On dirait qu'on achète moins. En fait, plus on vieillit, plus on catégorise ce qu'on veut acheter, entre guillemets, en termes d'imaginaire.
Oui.
Tandis que quand on est jeune, on est beaucoup plus perméable à un peu n'importe quel imaginaire.
Oui,
tant que c'est cohérent, tant que c'est trippant.
Oui, puis ça, c'est, on se laisse la liberté en tant que, quand on est petit, de justement travailler beaucoup avec notre imaginaire, puis on peut se donner pas grand chose là. Il y a vraiment j'ai vu des choses dernièrement avec deux trois taches de couleur, puis finalement, mais l'enfant est capable de se monter un monde autour de ça. Fait que c'est après chacun détermine combien il veut en donner, mais j'avoue que plus on est grand, même pas seulement dans la BD ou dans l'illustration, on se fait un frame qui est de plus en plus serré, mais pas pour tous, là, mais...
et l'idée des créatures et de l'alphabet, vous l'avez décliné aussi sur plusieurs autres médiums. Je veux dire, devant moi, j'ai des cartes, j'ai des signets, il y a l'alphabet lui-même, il y a des cartes tout court.
Oui.
Donc, c'est vraiment de trouver un peu de différents supports à ce type d'univers-là.
Oui, en fait, l'alphabet se décline... sur un support qui est des aimants, fait qu'on va pouvoir le mettre sur un tableau ou sur le frigidaire. Puis ben c'est les bonhommes sont séparés en deux, donc on peut s'amuser à former d'autres bonhommes avec en prenant la tête et les pieds de un et de l'autre. Et puis l'alphabet se retrouve dessus aussi, donc on peut apprendre quand même l'alphabet à travers ça. Sinon les autres cartes, c'est un autre type de dessin. C'est pas les mêmes qui sont sur les alphabets, mais toujours est-il que ça reste de notre univers à nous. Donc, on a des choses colorées.
Et un travail, en fait, beaucoup avec de l'encre, avec...
Oui, en fait, je travaille avec des Pentone et généralement un crayon de plomb, mais beaucoup avec les Pentone. J'aime beaucoup aussi, d'ailleurs, le papier qui est glacé pour pouvoir travailler avec l'étalement, avec les doigts, pour pouvoir faire des dégradés. J'essaye beaucoup de papiers différents pour pouvoir avoir une préférence, mais j'ai pas encore trouvé. Et en fait, je cherche dans la vie un papier qui ressemble à de la peau, parce que j'aime beaucoup dessiner sur les bras à Mathieu. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que je te dessine? Puis là, il me dit, quelque chose avec du vert, puis plein de pattes, puis mettons des gros yeux avec... puis il s'appellerait Rastnakoi Plen. Puis là, je fais OK. Fait que là, je prends mes couleurs. Puis ben, c'est ça. Lui, sur sa peau, ça marche super bien. Ça s'étale. C'est parfait. J'aimerais un papier comme ça. J'ai pas trouvé encore.
Si on peut éventuellement générer, produire industriellement sa peau pour.
Je sais pas.
Se régler. et d'ailleurs, Ilana, en fait, si on fait le comparatif entre MEI pour les petits et le blog Drawings for Abby, j'ai l'impression que le. Parce que les illustrations que tu lui envoies, on les retrouve donc en format informatique.
Ouais.
Et il y a beaucoup plus d'expérimentation, on joue avec les textures, avec du collage, donc on sort un peu de l'illustration.
Oui, c'est comme mon cahier hebdomadaire, on va dire. Et comme ma nièce est comme mon cobaye, hein, d'une certaine façon. Puis ben c'est ça, certaines de ces illustrations-là ou de ces collages-là se retrouvent formatées pour le format carte postale, donc les cartes postales que tu as devant toi sont exclusivement des choses que j'envoie à ma nièce. Et puis, c'est ça, ils ont été remasterisés, on va dire, pour pouvoir rentrer dans la carte postale. Mais ça, c'est vraiment une fois par semaine, il y a un dessin. Puis ben là, on va dire qu'à peu près un dessin sur trois ou quatre se retrouve dans la carte postale.
Donc, quand même... assez beaucoup de dessins. Oui. Ben, je veux dire, une fois par semaine aussi, faut-il avoir l'inspiration, réussir à la renouveler. C'est quand même un gros cadre, un bon défi de création que tu te donnes, j'ai l'impression.
Oui, c'est une routine que finalement, moi, je trouve très, très sympathique. Il y a aucune contrainte là-dedans. C'est vraiment une manière de s'évader. Généralement, je dessine le dimanche soir. Et puis, je pense à elle ou je vais l'avoir vue sur Skype. Fait que j'ai cette chance-là de pouvoir l'avoir de temps en temps. Et puis, généralement, ce qu'on retrouve dans les dessins, ça peut être quelque chose qui m'a marqué dans la journée, ou si on s'est promené dans la journée, ou qu'on est allé à l'animalerie, ou des choses comme ça. C'est...
Donc, quelque chose que tu voudrais lui raconter, dans le fond. Parce que ça donne un coup de pouce, j'imagine, d'avoir un destinataire très précis, versus faire une création pour les enfants en général. Mais si on pense à un, c'est plus...
Oui, c'est comme un épisode dans la vie, en fait. C'est ça, c'est vraiment... C'est comme une photo de ce que je peux avoir vécu, puis finalement, je le transmets sur le dessin, puis c'est pas un message, comment je dirais, qui raconte vraiment quelque chose de... pas de précis, ça laisse la liberté quand même, mais j'aime le fait que ce que j'ai vécu puisse se transformer sur le papier, puis qu'après puisse être imaginé ou transformé par elle. C'est sûr que pour l'instant, elle a un petit peu plus d'un an, fait qu'elle s'imagine sûrement des choses dans sa tête, je sais pas, là, mais elle aime beaucoup regarder le cahier où il y a tous les dessins qui sont dedans, puis ben, peut-être quand elle sera plus grande, on verra.
C'est avec les mots, avec les récits, ça va évoluer, dans le fond, sa perception de tout ça.
Tout à fait.
Et d'ici là, justement, on peut les voir sur le blog. En fait, il y a deux adresses. Il y a ilanapichon.blogspot.ca, ça c'est pour les drawings for Abby.
Oui.
Et il y a aussi donc wix.com/mi-illustration au pluriel, où si on cherche tout simplement dans le moteur de recherche MI pour les petits entre guillemets, là, on vous trouve assez facilement.
c'est tant mieux.
L'approche stratégique. et évidemment, on te retrouve au Salon Nouveau Genre les 12 et 13 mai à l'église Saint-Jean-Baptiste. Donc tu vas apporter un peu tout ce matériel-là.
Voilà, exactement. On va être là demain et dimanche avec grand plaisir d'ailleurs. On a vraiment tous hâte. Je pense que toutes les gens qui vont exposer à cet endroit, il y a une espèce d'effervescence. On est très contents parce que ça arrive de temps en temps qu'il y ait une édition au printemps. Généralement, ça se retrouve avant Noël. Et puis là, je trouve que c'est vraiment florissant. C'est super. C'est le printemps. Il fait soleil. Puis ça va être super sympathique.
Alors, on lance l'invitation. Ilana Pichon, merci.
Bien, merci à toi.
Et nous, on prend une courte pause, un extrait musical, un petit dernier, de la formation Six Hands. Et au retour, on jase avec Thomas Louis Côté. Et vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1. Et en fait, le marathon du 25e Festival de la bande dessinée de Québec est terminé. Donc, on retrouve notre collaborateur Thomas-Louis Côté dans un mode hors festivalier, retour de vacances. Bref, on a décompressé.
Presque oui.
Presque.
Bonjour.
Bonjour Thomas-Louis, ça va?
Ça va pas mal, toi?
Ça va très bien. Et Thomas-Louis, justement, le festival est derrière toi. Est-ce que c'était à la hauteur un peu des attentes que tu as face au fait que c'est la 25e édition, c'était une édition anniversaire?
J'ose espérer que oui. Je veux dire, moi, le festival comme tel passe un peu en coup de vent. J'ai pas le temps d'en profiter autant que je voudrais. Mais tous les commentaires que j'ai eus des gens qui sont venus cette année ont été excellent. Je veux dire, autant au niveau des invités qu'on a eus, qui ont été nombreux, il y a eu beaucoup d'Européens, il y a eu beaucoup de Québécois aussi qui sont venus, qui étaient dans la liste des participants, mais d'autres qui se sont présentés juste pour le plaisir de venir célébrer le 25e avec nous. Donc, tous les commentaires qu'on a eu ont été quand même très, très bon. Des choses comme les soirées qu'on a eues au Musée de la Civilisation vont devenir des traditions. Je veux dire, le spectacle qu'on a eu le vendredi soir avec Qualité Motel a été une super occasion de rencontre pour les gens. Ça a permis d'attirer aussi une clientèle qui est pas nécessairement familière avec le monde de la bande dessinée, mais quand même de créer des liens, si on veut. Et la soirée du samedi à laquelle tu as participé, oui, la soirée d'impro
très réussi,
BD,
très
a quand même été mon coup de cœur, je pense, pour le festival cette année en termes d'activité. Je veux dire, c'était génial de voir la symbiose qu'il y avait entre les dessinateurs, les comédiens, le plaisir surtout qu'avaient les dessinateurs et les comédiens à participer à cette activité-là. Je veux dire, on a eu au-dessus de 200 personnes qui sont venues au Musée de la Civilisation et on a gardé ce monde-là de 8h à 11h sans problème. Je veux dire, les gens riaient, les gens s'amusaient. C'était une super soirée dans l'ensemble.
Donc, un festival réussi. Je pense qu'on peut le dire. On peut le dire comme ça. Après ça, le défi, c'est de continuer le développement, évidemment. Puis surtout dans un contexte où il y a de plus en plus de festivals qui jaillissent tranquillement à Montréal, Sherbrooke, Gatineau.
Trois-Rivières.
Trois-Rivières aussi.
C'est Cowansville qui a déjà un festival aussi. Donc, effectivement, je veux dire, on a, le festival existe depuis 25 ans à Québec. Je dirais que depuis que je suis là, je poursuis la tradition de développer la programmation, d'amener des choses, des nouveautés. Et là, on va être confronté à de nouvelles réalités. C'est-à-dire qu'il y a d'autres événements qui arrivent. Je veux dire, le rendez-vous de la BD de Gatineau était là avant. On avait bien collaboré avec eux même à certains moments. Malheureusement, ils ont arrêté leurs activités pour une période d'un an au départ, mais qui se prolonge. Ils ont l'intention de relancer l'événement cette année. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va prendre forme. Je sais que l'équipe qui est derrière tout ça est très dynamique. Donc, j'ai bien hâte de voir. Puis, j'étais allé les rencontrer même dans un forum qu'ils ont fait pour la relance de l'événement. Donc, ils ont vraiment une belle équipe en place. Mais il y a l'événement de Montréal qui arrive. Mais Montréal qui a connu quand même plusieurs événements.
Il y a Comic-Con, il y a les 48 heures de la BD. Il y en a quand même pas mal.
Exact. Mais le 48 heures de la BD, ça reste un événement qui est très particulier. Je veux dire, qui est unique au Québec dans sa forme et dans sa fonction aussi. Donc, ça, c'est à part. Comic-Con, qui a vraiment un volet plus... américain, si on veut. C'est plus nous qui sont allés jouer dans leur plate-bande cette année avec Charlie Adler, qu'on a eu le plaisir d'accueillir, mais comme tel, eux vont développer un volet européen aussi plus européen et francophone, parce qu'on parle aussi d'auteurs québécois, bien sûr, mais plus développé. Donc ça, j'ai hâte de voir aussi la forme que ça va prendre dans le cadre d'un événement justement mixte entre la culture des Comic-Con américaines et les salons de la bande dessinée plutôt européens. Ben, j'ai bien hâte de voir la forme que ça va prendre. Puis quoi qu'il y avait déjà eu des auteurs européens et québécois en visite dans les deux, trois années précédentes. Donc, mais là, je pense que c'est dans la quantité, puis c'est mieux organisé probablement aussi dans la présentation de ce volet-là. Mais il y a surtout le Festival de BD de Montréal qui arrive et qui est comparativement à d'autres essais des dernières années comme BD Montréal qui était dans le cadre de Juste pour rire ou d'autres événements, ben le nouveau festival de bande dessinée de Montréal, j'ai ça aussi, c'est le premier 2 et 3 juin.
Oui, enfin.
Donc ça arrive très vite, puis j'ai bien hâte de voir comment ça va se mettre en place. On a déjà des discussions avec les gens de l'organisation, donc je sais un peu qu'est-ce qui se passe, comme vous d'ailleurs probablement,
oui,
ayant voir ce qu'il y avait sur le site,
aussi, oui.
Mais je pense que c'est pas tout qui est sorti encore, donc il reste des surprises qu'on va avoir dans les prochaines semaines, mais c'est ça, c'est un événement qui souhaite le plus grand succès, parce qu'en même temps, ça va créer un circuit qui va être intéressant.
Oui, parce que la grande question qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'on est en train de faire une surdose un peu d'offres BD, ou au contraire, est-ce qu'on répond à un intérêt grandissant de la population en donnant plus d'opportunités de médiation, de rencontres, de discussions autour de la bande dessinée?
Ben, je dirais que c'est des discussions que moi j'ai eues avec les organisateurs du festival de Sherbrooke qui sont venus nous visiter à Québec. Le festival qui va être lancé par le Centre culturel de Sherbrooke, la Maison de la culture de Sherbrooke. Et eux sont arrivés avec une foule de questions justement par rapport au festival de Québec, comment on fonctionnait et tout ça. Et moi, ça, ben, les discussions que j'ai plutôt voulu avoir avec eux autres, c'était peut-être savoir les motivations derrière l'organisation d'un festival. Parce que je vois les gens qui organisent Montréal, le festival à Montréal, c'est entre autres François Maillot qui est libraire à Planète BD, qui est derrière l'idée de l'événement, mais qui s'est bien entouré d'une équipe de passionnés de bande dessinée. L'équipe de Sherbrooke que je connaissais pas du tout, c'est la question que je leur ai posée en partant, c'est à savoir... Qu'est-ce qui vous motive à faire un festival de BD? Puis on en a discuté, puis aussi, une des choses que je leur ai présentées, c'est de, aussi la problématique qu'ils ont en Europe présentement par rapport aux événements de bande dessinée où tout le monde veut faire un événement bande dessinée. En se disant, on répond à un besoin de la population où les gens veulent un festival de bande dessinée, mais c'est important dans le réseau des quand tu crées un festival pour créer un réseau d'événements, que chacun ait ses particularités.
On n'est pas le même événement qui se déplace, dans le fond, que ce soit
non, parce que ça dilue la recette et ça devient un peu ça devient difficile parce que les gens vont devoir faire des choix entre des événements similaires, donc les gens vont décider, bon ben, j'irai pas à tel festival, je vais aller à lui, mais finalement, on est à côté, c'est presque à la même période, en tout cas. Fait que c'est de voir comment on peut se différencier, puis chacun travailler pour créer des événements uniques. Et je sais qu'avec les gens de Montréal, avec les gens de Gatineau, ben, on a quand même nos particularités. Le Comic-Con, c'est vraiment à part. Reste à voir, Sherbrooke, comment eux vont réussir à se démarquer, puis si Trois-Rivières, ça se concrétise aussi. Mais ça va faire beaucoup d'événements de bande dessinée. Donc, pour les amateurs de bande dessinée au Québec, c'est excellent.
Et pour les auteurs aussi, en fait, parce que nécessairement, c'est eux un peu la colonne vertébrale côté présence à ces événements-là. Dans bien des cas, c'est sur la Montréal, par exemple,
sans auteur, il n'y aurait pas d'événements. Sans éditeur, il n'y aurait pas d'événements. Donc, pour eux, ça leur donne assurément des opportunités de visibilité. Tout reste à voir dans la structure d'accueil, par contre, au niveau des auteurs et des éditeurs dans le cadre d'événements. Je veux dire, c'est une des problématiques qu'il peut y avoir dans le nombre d'événements. Dans les événements en Europe, t'as quand même pas des cotes, mais les auteurs se parlent à savoir quels festivals ont les meilleurs accueils et tout. Donc, ça va devenir peut-être pas une compétition, mais ça va devenir justement un des choses qui va démarquer les gens. Ça va être vraiment l'accueil, la qualité de l'accueil et la qualité de la programmation. Donc, j'ose espérer que nous, cette année, on a quand même jeté nos bases là, pour montrer depuis des années, on se le fait dire. Mais non, c'est vraiment de par rapport à la programmation, tu sais, on essaie de développer d'année en année. Cette année, on avait un peu plus d'exposition. L'an prochain, on devrait en avoir encore plus. Donc, on va bâtir un événement qui va vraiment se démarquer par sa programmation au fil des ans, mais tranquillement, on bâtit l'événement parce que de grandir trop vite aussi, ça a des contraintes que pour l'instant on peut pas nécessairement assumer là.
Et Thomas-Louis Côté, on met de côté un peu le festival. On voyage, on se promène évidemment, et de plus en plus il y a des outils BD sur iPad, et oui. T'en as trouvé un assez sympathique aussi, qu'on pourrait proposer.
C'est pas un outil BD vraiment, mais je pourrais parler d'un outil BD qui est Hydra 9 qu'on avait en démonstration au festival.
Oui, et qui sont avec nous ultérieurement aussi d'ailleurs.
Oui, et qui sont au Salon Nouveau Genre demain. Donc ça, c'est une plateforme de diffusion de bande dessinée sur le web, sur les iPads et tout ça, que vous pourrez découvrir au Salon Nouveau Genre ou directement en ayant téléchargé l'application. Mais ce de quoi je te faisais mention tantôt, Crackle, dans le fond, c'est une application iPad. Crackle, qui est une application qui te permet d'avoir du contenu audio et vidéo, surtout gratuit, et beaucoup de films, d'émissions de télé, du contenu original, mais de Sony Entertainment, en gros. Okay. Et sur cette application-là, hier, j'ai écouté un super documentaire sur Robert Crumb. Robert Crumb, que je connais pas, c'est peu, mais qui m'a un peu intrigué parce que j'ai vu son œuvre, j'ai parlé à des gens, j'ai rencontré des organisateurs d'un événement en Australie où Crumb devait aller, et à cause d'une tollée médiatique, il a dû annuler sa présence. Il y avait des groupes de pression qui ont fait qu'il n'a pas fait le voyage. Et je suis tombé sur ce documentaire-là qui a été produit par David Lynch en 95. Et c'est vraiment fascinant de voir comment c'est peut-être une des personnes les plus saines de sa famille. Je vous conseille d'aller voir ça. Et si vous allez sur Crackle, il y a aussi une foule de films manga, dont deux qu'on a présentés au festival cette année, Tekken Concrete et Metropolis, qui a été fait par le réalisateur de Akira. Donc, ça, c'est vraiment, c'est une application gratuite, c'est plein de contenu.
Et les films sont gratuits aussi.
Les films sont gratuits aussi. Et si ça vous intéresse, je sais pas si on en avait déjà parlé, mais aussi, l'Institut national d'audiovisuel en France, le INA.fr, un site qui a beaucoup d'archives, de documents d'archives, et il y a là-dessus des super combats de dessins entre des dessinateurs comme Giraud, Robat, Franquin et autres, ainsi que plusieurs documents audiovisuels sur la bande dessinée. Encore là, c'est du contenu gratuit, donc je vous invite à aller visiter ça.
Alors, ben, plusieurs belles idées pour prolonger nos expériences BD au-delà de la lecture des albums et au-delà des festivals. Thomas-Louis Côté, merci.
Ben, merci à toi.
Et on se dit à la prochaine.
À bientôt.
Alors, ben, voilà. Nous, c'est ainsi qu'on termine l'édition de cette semaine. On sera de retour, évidemment, la semaine prochaine avec, entre autres, Sophie Bédard qui sera de passage pour nous parler de sa BD Glorieux Printemps. Il y aura également Diane Obomsawin qui sera avec nous pour porter un regard sur sa présence à la Manif d'art. Et on parlera également, ben, de comment la BD tranquillement est en train de faire son chemin vers les arts visuels. Alors voilà, donc c'était Raymond Poirier au micro. C'est un plaisir d'être avec vous cette semaine. Dans quelques instants, l'équipe de 100% Dynamite prend la relève. Alors passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1.